Annette Campagne, bonjour. Avant d'entrer dans le département de la semaine, à savoir la Dordogne, je remarque que le compteur de notre émission affiche le nombre de 2500 carnets, trois fois plus d'informations sur les pays qui bougent, innovent et se transforment. Parmi les acteurs du changement figurent les artisans et artisans d'art. D'ailleurs, nous ne manquons jamais de souligner la forte densité de ces faiseurs qui n'hésitent pas à interpeller le public sur la nécessité de transmettre les savoir-faire pour leur caractère indispensable et parfois novateurs lorsqu'ils sont adaptés aux usages modernes. Les métiers d'art, justement, sont à l'honneur à partir d'aujourd'hui avec les journées européennes qui leur sont dédiées. Durant 5 jours, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les artisans d'art ouvrent leurs portes des ateliers ainsi que les centres de formation. Il y a un site journeesdesmetiersd'art.fr. Vous pouvez composer votre circuit de découverte région par région. Le thème de cette année est porteur de sens dans la perspective d'une société qui se transforme. Ça s'appelle Futur au pluriel, futur en transmission. Outre les habituelles ouvertures d'écoles, d'ateliers, ces journées européennes inaugurent aussi des rendez-vous cette année dites d'exception avec l'ouverture de manufactures prestigieuses, d'entreprises du patrimoine vivant et de lieux patrimoniaux emblématiques. Les invités de Dordogne sont Jean-Luc Fraud, chargé de mission à l'écocentre du Périgord Limousin, et Chantal Verschuren, membre du collectif très féminin, le Rhizome.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Luc Fraud, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc, chargé de mission depuis quelques années à l'écocentre du Périgord Limousin. Le siège est à Saint-Pierre-de-Frugy, c'est ça?
Oui.
Ouais. Quel est le décor de Saint-Pierre-de-Frugy?
Alors Saint-Pierre-de-Frugy, c'est à la limite de la Dordogne et la Haute-Vienne, c'est dans le parc régional du Périgord-Limousin, et donc on est dans un milieu rural assez boisé, avec plutôt des prés, il n'y a pas beaucoup de production, c'est essentiellement des bois et puis un peu d'élevage.
Oui.
Voilà.
L'éco-centre...
Après, le bâtiment lui-même est un bâtiment éco-construit en 2011, donc très récent.
D'accord. Oui, parce que l'éco-centre existe depuis 2003. Vous avez donc ce bâtiment éco-construit. Et d'ailleurs, l'éco-construction, c'est une de vos missions dans votre collectif.
Ah oui, c'est la mission de départ, de fait, ciblée sur tout ce qui était éco-construction, économie d'énergie, matériaux sains, et puis construction avec les matériaux du territoire, la terre, la paille, le bois. Mmh. Et donc, le bâtiment est un bâtiment démonstratif, en fait.
Oui. Alors, afin de diminuer la consommation d'énergie, les matériaux sains, écologiques, et l'éco-construction y participent grandement, on fait des économies, mais au départ, il y a un investissement. Avec vous, on peut limiter les investissements?
Oui, parce qu'on peut accompagner les gens en autoconstruction. On fait aussi des chantiers participatifs pour accompagner les gens sur les travaux qu'ils font. Et puis, on fait des formations. Et là, je pense que pour des gens qui veulent construire, faire une formation de 2-3 jours, c'est quand même intéressant pour faire les bons choix, quoi.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de solution idéale. C'est chacun selon ce qu'il a autour de lui, son territoire, la production à proximité, l'orientation de la maison, parce que le bioclimatisme est quelque chose d'important sur lequel on travaille beaucoup. C'est-à-dire pour pouvoir profiter au maximum de ce qu'il y a autour, le soleil, se protéger du vent, c'est aussi un des éléments importants. Quoi.
Bah, chez vous, il y a quand même l'utilisation de la paille, non?
Oui, beaucoup. Ouais. On travaille beaucoup avec la paille, qui est un matériau intéressant parce qu'il est de proximité, il fixe le carbone, il isole très bien. Donc voilà, c'est un matériau très intéressant. Mais on travaille aussi avec la chaux de chanvre, on travaille aussi avec le bois.
Et alors, donc, lorsqu'on dit accompagnement, vous savez, c'est un terme général, on ne sait plus ce qu'il recouvre très exactement. Vous, un particulier peut venir vous voir, il va avoir besoin de conseils, et vous allez le guider jusqu'à quel point?
Alors, on fait plusieurs étapes. En fait, si c'est une rénovation, ben, on va l'aider à faire des choix sur quel type de rénovation, en fonction de son budget, qu'est-ce qui est prioritaire, quels sont les choix pertinents qu'il peut faire. Après, c'est lui qui les fait. Hein. Après, on peut l'accompagner dans la mise en œuvre, mais nous, on n'intervient pas, on ne fait pas. Soit on le met en contact avec des professionnels qu'on connaît, dont on sait qu'ils font bien les choses, soit on le conseille sur comment lui, il peut faire les choses. Bon, il y a certaines choses qui sont assez faciles à faire. Une fois qu'on a compris et qu'on sait comment poser un isolant, en faisant bien attention à certaines choses, on peut le faire soi-même.
Ouais.
Mais il faut se faire conseiller. Quand on est sur de la construction, là, par contre, on peut travailler avec eux sur les choix qu'ils veulent faire, les orientations par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les problèmes de bioclimatisme. On peut aller jusqu'au permis de construire si c'est une maison de moins de 150 m² parce que notre architecte n'est pas inscrit à l'ordre, c'est pas notre choix. Et puis après, on pourra l'accompagner aussi sur de la maîtrise d'œuvre ou sur de l'autoconstruction ou sur une articulation entre autoconstruction et intervention d'artisans.
Et alors chez vous, on peut se former, Jean-Luc, à l'éco-construction, mais aussi à la permaculture.
Oui, donc progressivement, on a élargi notre champ d'intervention parce que c'est logique. Hein, quand on travaille sur l'insertion de son habitat sur son terrain, en bénéficiant du bioclimatisme, de la végétation, forcément, à un moment, on glisse vers le jardin, vers la permaculture, et plus généralement, comment on met en valeur les richesses de son territoire et comment on respecte aussi la nature. Donc ça se tient, quoi. C'était la suite logique, je dirais, du premier palier qui était l'habitat.
Ouais. Et grâce à un réseau d'une quinzaine de professionnels, vous pouvez assumer un nombre insensé d'heures de formation. 2017, c'était 2900 heures de formation pour 269 stagiaires. Et comme nous le dit Paul dans son courrier, ce centre de formation et de connaissance de l'éco-construction apporte beaucoup et se bat efficacement auprès des citoyens et des élus. Parce que là aussi, il s'agit de convaincre les élus du bienfait de cette démarche.
Oui, on essaye de sensibiliser les élus, mais bon, on sent que les choses bougent ces derniers temps, oui. Que ce soit au niveau des sollicitations qu'on a des particuliers, que ce soit les orientations que prennent les communautés de communes ou les collectivités locales, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut bien sûr après avoir des compétences d'accompagnement, et l'éco-centre y contribue, il n'est pas le seul, mais on y contribue.
Oui. Les activités de l'éco-centre, bah pour les connaître, c'est très simple. Vous allez sur le site, c'est ecocentre.org, tout simplement. Merci, ouais, Jean-Luc.
Merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
On apprécie grandement ces personnes discrètes qui se donnent de la peine pour améliorer la vie d'autres personnes à faibles ressources. Véronique, dénoncée par Valérie, fait partie de cette armée de l'ombre des bonnes volontés. Le premier lieu ouvert par Véronique à Bergerac est un salon de beauté solidaire, beauté et style. Si j'en crois sa page Facebook, il ne désemplit pas. Cet institut atypique a ouvert ses portes en septembre 2014 et dès le départ, le projet fut réalisé grâce aux femmes bénévoles, mais professionnelles, qui se relayaient pour assurer coiffure et soins de beauté. Le second projet qui lui tenait à cœur était un restaurant solidaire. C'est ouvert, c'est chose faite, donc il s'appelle l'Assiette Vintage, à l'image du vintage. Ouais, j'aime bien la française, vintage, c'est bien. L'origine, c'est un mobilier années 60 qui habille le local, mais aujourd'hui, il y a des menus dont les prix vont de 6 à 10 euros selon les revenus, et il est possible de consommer sur place, d'emmener sa commande à prix donc très raisonnable. Vu les commentaires, la table est apparemment excellente. Vous allez trouver les liens des pages Facebook de ces deux espaces. Chantal Verschuren, bonjour.
Oui, bonjour.
Chantal, vous êtes membre du Rhizome?
Oui, c'est ça, c'est le Rhizome, un collectif de femmes qui s'est créé sur le secteur de Mareuil-sur-Belle en Dordogne.
Oui. À l'origine, on y trouve une vidéaste, Marie Doria, qui avait un projet. Alors, quel type de projet était contenu dans Paroles de femmes, parce que c'était son nom?
Oui, alors donc le projet, c'était de faire un documentaire à partir de paroles de femmes, justement. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé Paroles de femmes. Il y a eu trois ateliers sur trois communes, Verteillac, Mareuil et Brantôme, hein, en Périgord. Et de ces trois ateliers, en fait, c'était des rencontres sur des sujets que nous décidions à l'avance, des sujets qui nous concernaient directement. Et donc c'était l'occasion de débat. Et il y avait à chaque séance un écran, une caméra branchée. Quand quelqu'un était prêt et avait envie de le dire devant la caméra, elle allait s'exprimer devant la caméra. Et ça a fait tout un lot d'interviews qui ont été collectées par Marie Doria et mis en scène avec d'autres interviews en direct chez des personnes, par exemple. Voilà.
Et ça a donné naissance donc à un documentaire, Le Temps qui nous est donné. Quels étaient les sujets qui étaient le plus fréquemment débattus?
Alors, la vie d'une femme à la campagne, dans sa vie de tous les jours, des sujets sur l'amour, sur la maternité, sur l'éducation des enfants, sur le rôle des femmes dans leur quotidien. Des sujets qui nous touchaient personnellement dans l'intime ou dans le quotidien.
Et ce projet ne devait pas avoir de lendemain, et vous lui avez donné un lendemain qui s'appelle le rhizome, justement.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, le projet était dans un temps donné. Et une fois que c'était terminé, normalement, ben voilà, ça n'avait plus lieu d'être. Mais les femmes qui avaient l'habitude de se réunir ont décidé de continuer de le faire et donc de se constituer en collectif. Et ce, au sein du centre social de Mareuil, de Brantôme et de Verteillac, qui aujourd'hui est un centre social qui est un espace socioculturel qui s'appelle le Ruban Vert. Et c'est à l'intérieur de cet espace que nous avons créé notre collectif, qui s'appelle le Rhizome.
Est-ce que vous avez vu du changement, Chantal, depuis la création du projet, puisque tout est né il y a 14 ans, oui. Sur la place de la femme en milieu rural, c'est-à-dire les opportunités, reconnaissance sociale, travail, salariat, prise de responsabilité, est-ce que vous avez vu une modification ?
Ben, pas énormément, non. On s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire en milieu rural et particulièrement auprès des jeunes pour leur donner un peu d'ambition, un peu de donner une autre ouverture que se dire qu'on va se retrouver femme au foyer, quoi, tout simplement, hein. Voilà.
Ouais. Alors, l'ouverture auprès des jeunes, c'est entre autres au collège de Mareuil.
Oui, voilà, c'est ça. C'était notre action depuis 3 ans, là, maintenant. On a eu une principale qui a été vraiment très sensible à notre proposition. Et du coup, on a pu effectivement intervenir, proposer des ateliers, des débats pour sensibiliser les jeunes. Parce que ben, les jeunes filles du collège n'avaient pas beaucoup d'ambition professionnelle.
Et donc, ces rencontres, ateliers, débat avec les jeunes ont donné lieu à la création d'un DVD.
Voilà, c'est ça. Il y a un vidéaste qui est intervenu dans le collège pour faire une web TV. Lui-même a fait la proposition de mêler notre projet au sien. Et du coup, on a fait des interviews. Les jeunes du collège ont eux-mêmes réalisé des petites émissions autour de notre sujet égalité filles-garçons. Mmh. Et lui a fait un montage à partir des interviews des enfants et pour donner naissance à ce DVD. Mmh. Et on s'est dit que, en fait, ça pourrait peut-être rendre service à des éducateurs, des enseignants, d'avoir clé en main, en fait, un outil pédagogique dans leur classe ou dans leur centre de loisirs ou un club ado, enfin, peu importe, des endroits où les jeunes se retrouvent et où on a la possibilité de les faire réfléchir et discuter sur le phénomène filles-garçons.
Bravo. Et sachez, amis enseignants, enseignantes, animateurs, animatrices, que ce DVD, les ateliers proposés sont destinés à un public depuis le cours préparatoire jusqu'à la 3e. Si vous voulez de plus amples détails, vous allez sur le site du Ruban Vert, les centres sociaux. Alors vous allez avoir un lien également avec le Ruban Vert, sa page Facebook, et avec les ateliers égalité filles-garçons. Merci beaucoup Chantal et bravo pour ce que vous réalisez.
Ben, merci à vous Philippe Bertrand et merci de nous avoir proposé de nous exprimer.
Avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, la semaine prochaine, nous serons dans l'Aude, puis ensuite dans l'Indre, l'Ariège, et puis au mois de mai en Haute-Garonne, dans le Loiret, en Eure-et-Loir, et en Seine-Saint-Denis, je le rappelle, pour vos correspondances.